应该是打高尔夫了。
Au revoir les enfants. À bientôt.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi, et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses?
Bonjour à tous, et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Nous sommes enfin de retour après quelques vacances, et il s'agit maintenant de rattraper notre retard avec aujourd'hui deux films en tout opposés, si ce n'est qu'ils en disent long sur le contraste entre les préoccupations des grands de ce monde et celles des plus défavorisés. Notre toile voyagera donc cette semaine dans le sillage de L'homme aux mille visages d'Alberto Rodriguez. Mais d'abord, nous nous posons à Kinshasa avec Félicité d'Alain Gomis. Quant aux yeux, cette semaine, ce sont ceux d'Alice qui se joignent au mien pour cette première partie. Bonjour Alice.
Bonjour Rémi.
Alors on a à la fois tout et rien dit en affirmant que Félicité est un film lyrique. En effet, si les synopsis résument son scénario à sa trame principale, à savoir l'histoire de Félicité, chanteuse dans un bar, femme forte et ombrageuse, qui doit se procurer une grosse somme d'argent pour payer l'opération dont a besoin son fils après un accident de moto, avec l'aide d'un affectueux ivrogne mécanicien. Mais le film est avant tout un collage poétique où les trouées du scénario laissent apparaître une évocation chorale de Kinshasa et de son peuple. Alors avant d'en dire un petit peu plus et de démystifier tout ça, qu'est-ce que tu en as pensé, Alice ?
Moi, j'ai beaucoup aimé Félicité. J'étais assez... J'étais pas très convaincue par la bande-annonce.
Non, moi
même
non plus.
Pas du tout.
La bande-annonce est vraiment très mauvaise.
Oui, elle rend pas du tout justice au film, qui était en fait pour moi une très bonne surprise. C'est assez éprouvant. Bon, déjà ça dure 2 heures, donc la durée en soi est éprouvante, mais surtout il y a une violence assez directe dans les images, même le côté assez décousu de la narration qui fonctionne de plus en plus par flash et qui est de plus en plus émotive est très parfois assez dur à suivre. Mais c'est finalement un film lyrique, comme tu l'as dit, et qui repose beaucoup sur des ambiances musicales et un grand onirisme.
Oui, alors je suis d'accord que ce n'est pas forcément un film d'un accès très facile, parce que le film est, mine de rien, très très froid dans sa forme, dans son montage, dans les images, dans le choix des couleurs, mais aussi dans un montage pas très amène, pas très doux. Il y a quelque chose d'assez rocailleux, quelque chose de très minéral, on va dire, dans cette dureté de l'esthétique. Mais derrière ça, c'est vrai que chaque plan est une évocation et on a l'impression de sentir battre le pouls de cette ville, de son peuple. Autant à travers les scènes très réalistes qu'à travers les scènes complètement oniriques qui s'intercalent à celles-ci et qui finissent par s'y mêler au fur et à mesure qu'on entre dans le film. Et c'est peut-être ça la dynamique qui traverse tout le film et qui va vraiment dans un sens, une dynamique entre réalisme et lyrisme, et on va petit à petit du premier vers le second, j'ai l'impression.
Oui, mais... Plus que ça, moi, je trouve qu'il y a ce qui m'a frappé en voyant le film, c'est vraiment le côté très binaire. Il y a un principe de structuration binaire, j'ai l'impression. Déjà, le film, donc, finalement, a une première partie où on s'occupe de la narration à proprement parler, de cette femme, Félicité, qui, donc, il lui arrive... l'accident de moto de son fils, ensuite elle doit chercher l'argent, elle parcourt Kinshasa, etc. Et une fois que tous les fils sont démêlés de la narration, c'est l'onirisme qui prend toute la place et tout fonctionne par flash de mémoire, de sensation. De même, il y a tout le temps des contrastes jour-nuit, musique classique, musique traditionnelle ou populaire. Et ça m'a beaucoup aidé en fait à rentrer dans le film et à m'en souvenir clairement.
Oui, parce que cette, malgré tout, le passage de l'un à l'autre n'est pas instantané, ou en tout cas, il n'est pas vécu comme tel. On se retrouve petit à petit débarrassé de la narration, mais sans que ça se fasse de façon vraiment brutale, parce qu'au moment où les fils narratifs se dénouent, finalement, on pourrait encore les rattraper. Et non, on les laisse partir et on essaye de tirer un petit peu le côté très, très lyrique, très poétique du film, du propos du film. Et ça, oui, ça se fait petit à petit. Cela dit, c'est vrai qu'il y a quand même ce que tu dis, cette logique binaire, des scènes très, très réalistes avec une image, on a l'impression qu'elle est presque imprégnée du sable qu'il y a partout dans les rues. C'est filmé in situ dans les rues de Kinshasa, etc. Il y a quelque chose de très chaotique aussi avec ces gens partout. Il y a ces scènes, toutes ces scènes dans la rue. On a une scène très, très belle avec le jeune homme qui est planté au milieu d'un croisement et où toutes les voitures et les gens circulent autour de lui et la caméra tourne comme ça. Et il y a vraiment une impression de chaos dans toutes ces scènes, entre guillemets, réalistes. Et à l'inverse, on est plongé dans une incroyable sérénité dans ces scènes très colorées, avec des couleurs parfois complètement irréalistes. Je pense aux répétitions de cet orchestre symphonique tout bleuté. Et là, il y a vraiment un calme, une sérénité qui nous emporte.
Oui, et puis quand tu disais que donc il n'y a pas de rupture à proprement parler entre réalisme et onirisme, il me semble que c'est dû aussi au fait qu'il y a une sorte de magie qui imprègne un peu tout le film, enfin de plus que de magie, d'esprit un peu de croyance, en tout cas assez vague à définir, mais ne serait-ce que les premières scènes où en fait on ne fait que filmer des clients d'un bar qui ont tous des discussions où d'un coup on a un proverbe très très mystérieux qui est lancé au milieu de la phrase, donc il y a sans cesse des petits aphorismes, des petits proverbes où la nuit te portera mon fils, ce genre de petites phrases qui en fait ne soit introduisent de l'onirisme, soit sont au contraire du réalisme total de la sagesse populaire ou, je sais pas, les discussions de comptoir. Et ce qui fait aussi qu'on n'abandonne pas du tout ce fil du début à la fin.
C'est ça aussi qui fait qu'il marche vraiment bien. C'est-à-dire que Gomis, plutôt que de calquer du mysticisme et du réalisme, réussit à trouver ce qu'il y a de mystique dans le réel. Et réussit à trouver comme une espèce de force tellurique qui serait là, qui tiendrait ce réel serré, compact contre lui-même. Et il arrive à trouver une énergie dans le réel qui du coup n'a pas l'air artificielle du tout quand on se retrouve dans des scènes très très oniriques, et toutes ces scènes dans la nuit où elle marche dans la forêt qui arrivent comme des petits intermèdes assez brefs à intervalles réguliers dans le film.
Oui, et puis il y a aussi le fait tout simplement que tout est structuré autour de deux personnages, presque trois en comptant le fils de Félicité, mais sinon donc c'est cette sympathique ivrogne mécanicien, comme tu disais, et Félicité qui sont les figures centrales du film. Et elle est très froide, comme le film lui-même, et en même temps on la suit dans ces scènes de nuit complètement oniriques, dans cette sorte de quête de sérénité. Tandis que lui, il commence par tout casser, par tomber d'ivresse, par aller baiser dans un coin. Et il devient cette espèce de personnage attentif à tout, d'une grande finesse et d'une humanité incroyable et d'une grande subtilité, alors que c'est vraiment cet énorme colosse. Et ces deux figures, pour moi, je sais pas, elles m'ont prise. Enfin, c'est ça qui m'a fait oublier la narration dès le début, en fait, juste être attentif à leurs moindres variations.
Et ces deux figures, oui, leurs rapports sont vraiment très intéressants. En effet, au début, comme tu dis, elle est très très froide, et sauf justement dans les scènes où elle chante, où d'un coup, soudain, il y a une chaleur qui se dégage d'elle, et c'est précisément l'inverse avec ce personnage donc de Tabou, qui est franchement pas très sympathique pendant ces scènes nocturnes où c'est juste un ivrogne un peu désagréable, et où au contraire, la journée, pendant qu'elle est très très froide, lui a toutes ses petites attentions. Et la beauté du film est peut-être justement de réussir à réconcilier ces deux caractères et à les mettre ensemble et autour de la figure du fils qui est finalement ce qui les unit. Alors le fils et le frigo, pour la petite blague qui traverse le film, une blague de frigo en panne qui ne sera jamais réparée. Et ces personnages qui ne vivent pas une histoire tonitruante, qui ne vivent à proprement parler rien, mais qui juste par la présence et les attentions qu'ils ont l'un à l'autre construisent quelque chose de très beau et d'essentiel.
Après, tu dis qu'ils ne vivent pas d'histoire tonitruante, mais j'aimerais juste dire qu'il y a quand même un suspense assez fort dans toute la partie 1, la première partie du film. Qui m'a tenue en haleine vraiment et même toute la salle autour de moi frissonnait. Mais c'est pas du tout un film où il se passe rien. C'est
non, pas du tout.
Un film très rythmé.
Et finalement, je trouve que cette évolution des personnages reprend exactement l'évolution aussi du rythme du film, dans le sens où j'ai l'impression que dans cette première partie beaucoup plus réaliste, on a ces deux personnages qui se battent d'une certaine façon, surtout Félicité qui combat de façon très très âprement contre le monde. Et c'est une fois qu'elle se brise contre le monde, comme la narration se brise avec l'échec de Félicité à soigner son fils à temps. Et c'est au moment où la narration, comme le personnage principal, échoue, qu'ils réussissent à gagner cette espèce de sérénité, à se reconstruire et à se reconstruire à côté de ce personnage de tabou. Comme s'il n'était possible de construire quelque chose de poétique, de profond, qu'une fois arrêtés les combats, une fois la narration, finalement, les événements et le chaos du monde stoppés.
Oui, et il faut aussi parler de la musique, il me semble, qui est...
Oui.
J'ai dit que c'était assez binaire encore sur musique classique, musique populaire que Félicité chante dans les bars de Kinshasa. Il y a aussi un rapport de complémentarité entre ces deux musiques où elles s'infusent l'une et l'autre et surtout... La musique classique est parfois même tournée en dérision, parfois elle apporte au contraire une douceur dans ces longues scènes où on voit Kinshasa, le sable blanc, le chaos, la fatigue de la ville. On entend Arvo Pärt se dégager comme ça en fumée presque. Tandis qu'elle, quand Félicité chante dans les bars de Kinshasa, c'est au contraire hyper incarné, hyper charnel, à tel point que chaque scène, chaque soir où on la voit aller au bar semble être remplie, un précipité de toutes ces humeurs, de toutes ces sensations, de toutes ces humiliations de la journée qu'on voit sortir quand elle chante. Et on pourrait peut-être même suivre les mots du critique de Luma, dont je ne connais pas le nom. Et le montage lui-même est assez musical, assez au sens où il est parfois éclaté, parfois très étiré, et comme un peu une improvisation.
Oui, moi, cette musique, je l'avais déjà vue j'avais déjà entendu les mêmes musiques d'Arvo Pärt, les musiques classiques, dans La Grande Bellezza de Sorrentino.
C'est vrai.
Et on a plusieurs scènes qui sont vraiment extrêmement similaires, je pense, à cette apparition d'un animal à un moment. Et je trouve que le parallèle est assez intéressant, où vraiment, de la même façon, le réalisateur réussit à nous faire traverser une ville au rythme qui est précisément celui de la ville et non plus le nôtre. Et
celui d'une personne.
Celui d'une personne dans la ville. Et les démarches sont, je trouve, assez similaires, en s'adaptant évidemment au contexte, et dans les deux cas, ça marche extrêmement bien. En tout cas, c'était mon avis pour le Sorrentino et pour celui-ci aussi. Eh bien, je crois qu'on est à peu près d'accord. Et du coup, c'est Félicité donc de Alain Gomis qui passe encore en salle pour quelques temps, entre autres chez nos partenaires des Cinémas Lumière.